bienvenue dans Question Q. Et vous vous demandez peut-être quel sera cette fois-ci le sujet de cette émission, puisque vous nous savez capables de tout. Alors je vous donne quelques indices. Attachez-vous bien, cette émission s'adresse à toutes et tous. Ici, les premiers de cordée, ça nous intéresse moyen. On préfère les nœuds érotiques que les irrésolus. On préfère ligoter les corps que les idées. On préfère le shibari qu'un shiba qui rit. Question Q vous parle de shibari, l'art japonais du bondage, une discipline, une pratique, un art. On va en discuter durant toute l'émission avec plein de monde autour de moi. À commencer par Romy Sigrist, psychologue et sexologue. Il y a aussi des chroniques signées Thierry Sartoretti et Marie Fourquet. Pour nous parler plus précisément de l'art subtil du shibari, avec nous en duplex, Alex Dirty Von P, qui est professeur à Paris. Il co-signe le livre L'art du bondage aux éditions La Musardine. Et elle aussi enseigne le shibari, mais ici en Suisse, c'est Romaine Koller. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous qui nous écoutez, trouvez des cordes chez vous, attachez-vous à votre poste de radio ou à votre téléphone. On est ensemble une heure et vous verrez, ça crée des liens.
Question Q, Christine Gonzalez.
Le shibari, comment le définir, Romaine Koller?
Alors, le shibari, c'est l'art d'attacher et de se faire attacher avec des cordes. Et ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent être pris dans cet art, qui peuvent être finalement apportés, que ce soit des éléments de danse, des éléments de sensualité, des éléments de sexualité. Donc c'est assez vaste en fait.
C'est considéré aujourd'hui comme une pratique BDSM, Romy Sigrist?
Oui, ça rentre encore sous le l'égide en fait de BDSM, hein, parce que le BDSM c'est l'acronyme pour bondage, domination, enfin bondage discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Après, toutes les personnes qui pratiquent le shibari ne sont pas forcément dans d'autres pratiques BDSM. Après, on estime que 10 à 22% plus ou moins selon les études, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi curieuses, on pratique ou on sont ouvertes en tout cas à pratiquer du BDSM. Puis je pense que dans le shibari, il y a aussi tout cet aspect, j'ai l'impression, esthétique. On essaie aussi de faire du beau, souvent. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui ressort, qui est dans la beauté.
C'est à la base un art martial, non, Alex Dirty Von P?
Oui, tout au début, c'est un art martial. Donc c'était utilisé avec une corde plus courte qui était déjà attachée au poignet, en fait. Et c'était un jutsu, donc c'est une technique d'immobilisation qu'on utilisait sur les champs de bataille quand on était désarmé. Donc à base de clés de bras et d'étranglement pour rattraper son adversaire, quoi, en fait. Et ensuite, ça a été utilisé pour attacher les prisonniers. Et c'est là où on a commencé à développer différentes manières d'attacher dans le dos des personnes.
Et c'est devenu depuis quelques années presque, j'allais dire, une pratique assez commune, assez mainstream, ou bien ça reste encore très confidentiel?
Ouais, non, ça s'est beaucoup développé effectivement depuis une dizaine d'années, je dirais, où il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui osent en parler, qui osent dire qu'elles sont intéressées par cette pratique. Et du coup, on est sorti aussi beaucoup du cadre BDSM, comme on peut se l'imaginer, les donjons et autres, pour quelque chose d'un petit peu plus lumineux, avec des tatamis, des choses plus claires, de la lumière, etc. Et une pratique un peu plus soft, on va dire, qu'on pouvait imaginer à l'époque.
Quoi. Sur Lausanne, il y a aussi des pique-niques cordes qui sont organisés au bord du lac, et puis c'est en pleine nature, en journée. Alors les personnes restent habillées, hein, bien sûr, et puis c'est vraiment cet art qui est justement pas forcément sexualisé dans ces moments-là.
Oui, c'était une question qui m'intriguait justement. Est-ce que c'est sexuel au sens premier?
Premier, non.
Oui et non, en fait. En fait, le shibari, c'est un petit peu comme le BDSM. Il y a autant de manières de pratiquer qu'il y a de pratiquants. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de façon de faire particulière. À la base, quand ça a été créé, c'était quand même... L'idée, c'était d'érotiser la souffrance, en fait. Donc, il y avait quand même cette notion d'érotisation de la souffrance, d'exposition, de gêne, de tourment. Tourmenter la personne attachée en la contraignant de manière assez forte et en l'exposant un petit peu, en écartant les cuisses, etc. Mais après, au fil du temps, on est parti sur quelque chose de plus artistique, de moins érotisé. Donc après, chacun pratique un petit peu comme il veut, habillé, déshabillé. avec une charge érotique ou pas. Ouais,
donc l'idée, c'est pas forcément de faire mal, Romaine Koller.
C'est pas forcément de faire mal. La douleur est clairement un aspect qui peut être apporté, amené dans cet art d'attacher. C'est quelque chose qui peut être recherché par l'une ou l'autre des pratiquantes, pratiquants. Mais ça peut être au contraire très doux, très sensuel, très soft. Donc non, c'est pas du tout un aspect, un élément qui est essentiel, nécessaire à la pratique du shibari.
J'ai une question très bricoloisir de Béotien.
Quelle corde acheter
Exactement, quelle corde acheter chez Bricoloisir ou ailleurs? Et puis combien ça prend de temps d'attacher et de détacher? Donc une séance de shibari, c'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures? C'est 45 minutes si on fait des petits nœuds?
C'est un petit peu variable. Alors pour répondre à la première question, non, on ne peut pas acheter des cordes au Bricorama du coin ou autre. C'est vraiment des cordes très spécifiques qu'on utilise pour attacher des personnes. En fait, le tauronnage, le tressage de la corde est très souple. Il permet à la corde de devenir plate, en fait, quand on met de la tension dessus. Et c'est des cordes avec une spécificité technique qui fait qu'elles vont devenir très souples et qu'on va pouvoir faire de petits nœuds, des petites finitions. Donc, ouais, il faut vraiment acheter des cordes de shibari et pas prendre n'importe quelle corde pour cette utilisation-là. Après, au niveau de la durée d'une séance, ça va dépendre un petit peu de ce dont on a envie. Ça peut être entre 45 minutes et 2 heures. Vraiment, ça va dépendre aussi du type d'intensité qu'on va mettre dans ses cordes. Si on fait des choses relativement légères, on peut rester attaché très longtemps. Si on fait des choses un peu plus contraignantes, un peu plus dures, ça sera un petit peu moins long, quoi.
Moi, j'aimerais rajouter finalement que, alors oui, au niveau de la matière des cordes, il y a une tradition autour de ça, des spécificités au niveau de la matière, comment la corde réagit. Et en même temps, moi, j'ai commencé avec des cordes synthétiques. Alors évidemment, ça n'a pas la même réaction. Et je pense que c'est important de le noter parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas accès à ces cordes de shibari. Et finalement, si on est conscient, consciente de comment la corde réagit au contact de la peau, au contact de ce qu'on fait, c'est aussi possible d'adapter avec des cordes qu'on trouve finalement dans le commerce, en fait.
Mm-hmm. Ça coûte cher, ces cordes?
Il y a toute une gamme de prix. Évidemment, si on prend des cordes en jute, donc il y a la matière un petit peu plus traditionnelle, ou en chanvre, ça coûte... Il y a un certain coût, et en même temps, je pense que c'est bien de pouvoir investir dans des cordes qui ont une matière qui est faite pour attacher, parce que finalement, ça permet de pouvoir apprendre les nœuds qui vont apporter de la sécurité aussi à ce qu'on fait. donc il y a plusieurs gammes de prix, en fait, c'est très variable.
Puis ça s'entretient, ces cordes, comment on a son petit kit pour les huiler, les brosser? On a perdu Romy Siglis quand Romaine a parlé de cordes en jute. Je vous explique pourquoi Romy a les larmes aux yeux.
Voilà. Oui, pourquoi, je ne comprenais pas l'émotion qui se jouait chez nous.
On a essayé de contenir un fou rire quand même, avec Christine.
C'est quoi le problème avec la jute, Romy?
J'ai les cordes en jute. Alors, comment est-ce qu'on prend son nom? Effectivement, j'ai l'impression que dans ces cordes aussi, c'est plus on les travaille sur les corps, plus le corps et le sébum en fait, du corps va venir assouplir aussi la corde et en prendre soin. Hein, c'est en encordant qu'on devient en corde creuse.
On a une image collective du shibari avec des cordes, des suspensions. Est-ce qu'on peut le faire aussi au sol? Enfin, c'est aussi bien de dire que en fait, c'est accessible à toutes et à tous. On n'a pas besoin d'une installation et puis d'un plafond très solide en béton armé.
Non, souvent, oui.
Vas-y.
Ok. Souvent, on a l'image du shibari avec ses suspensions, des choses très techniques, des choses très, très complexes à faire. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant avec le shibari, c'est que même avec des bases techniques très, très simples, en fait, on peut déjà s'amuser, on n'a pas besoin de faire de suspension, on peut faire plein de choses au sol. Et le sol n'est pas moins contraignant qu'une suspension, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut déjà mettre énormément de tension sur les cordes qu'on est au sol. Donc, la suspension, en fait, c'est une partie partie d'une session de Shibari. Dans le style que je pratique, on commence au sol, on travaille beaucoup au sol, on construit ses harnais, ensuite on va monter en semi-suspension, on a une partie du corps qui reste au sol, on passe en suspension, on fait éventuellement 2-3 transitions, des changements de position en l'air, et on revient au sol. Donc c'est, la suspension, c'est pas un but en soi, c'est une partie de la session.
Vous dites mon style de Shibari, Romaine Colère, chacune son style de Shibari ? Ou bien il faut respecter quand même, il y a une tradition ancestrale.
Alors effectivement, chacune son shibari. Comme disait Alex, il y a autant de shibari que de pratiquants, pratiquantes. Il y a effectivement une tradition, ou plutôt des traditions, des écoles qui sont formées. Après, c'est vraiment à chacune de choisir quel style l'intéresse. Moi, j'ai par exemple un style qui est très fusionné finalement, où je m'inspire beaucoup aussi de ma pratique, notamment du massage, la danse, du mouvement.
Vous dites que c'est une danse. Votre perception, je l'ai vu sur votre site internet, dit le shibari, c'est une danse à deux.
Oui, à plusieurs niveaux, en fait. C'est une danse à deux, parce que pour moi, déjà, la connexion, le lien qui se crée entre les deux personnes est vraiment important. Il y a vraiment cet aspect un peu de voyage, où moi, j'ai envie d'emmener la personne, et à l'inverse, quand je me fais attacher, j'ai envie que la personne m'emmène avec elle. Et ça, c'est propre un peu à mon style, où j'amène beaucoup de mouvements quand j'attache, notamment au sol, qui me permet justement d'avoir cet ancrage au sol et d'amener de bouger finalement le corps de la personne. Et c'est ça aussi que je trouve qui est super riche au sol. C'est cette diversité des positions avec ce soutien du sol qu'on n'a plus finalement en suspension.
Question Q avec Alex Dirty Von Py, Romaine Colère, Romy Sigrist, Marie Fourquet et Thierry Sartoretti. On vous parle de Shibari.
Hey les garçons, est-ce que vous avez bientôt fini d'emballer le cadeau pour votre père ?
Voilà, c'est fini.
Pas trop tôt.
Non, c'était moi qui devais mettre le nœud pour finir.
Bah pourquoi est-ce que tu l'as pas dit ?
J'ai une question plus philosophique et je pense qu'elle est d'abord pour vous, Romy Sigrist. Dans le contexte sociopolitique du moment, dans un contexte de domination, dans un contexte de guerre, dans un contexte de contrainte, est-ce que le shibari va pas fouiller quelque chose d'assez sombre dans notre part d'humanité ? Ou au contraire, le shibari transcende tout ça ?
Ça dépend de l'intention des personnes qui le pratiquent, je pense, derrière. Après, comme art, on voit qu'à la base, c'est un art martial ou qu'il y a un lien avec la contrainte. Après, comment est-ce que ça sublime les dynamiques de pouvoir qui sont présentes ? Ça peut être une forme de résilience. Et je pense que l'érotisme et la sexualité peut être une forme de résilience face au trauma, face aux oppressions, face aux dominations. Après, ce que je trouve aussi intéressant dans le shibari, c'est finalement... on n'est pas hors contrôle complètement, en fait, quand on est attaché ou attaché. Ça demande, c'est plutôt, où est-ce que j'ai du contrôle et qu'est-ce que je peux en faire pour trouver un certain confort au cru des cordes aussi, au sein des cordes. Parce que si on est complètement passif ou passive, c'est pas forcément non plus entièrement agréable. Des fois, il faut trouver sa position, puis ça demande une certaine présence, en fait, aussi à soi. Après, effectivement, on peut être emmené par l'autre, mais c'est vraiment une danse où les dynamiques de pouvoir ne sont pas si claires.
Ah ouais ? C'est pas attaché, attachante. Enfin, plutôt attaché, yeux et attachant.
Ouais, alors en plus, bien sûr, il y a peu de visibilisation de cordes queer, en fait, aussi, ou bien de dynamique inversée. Après, nous, on a de la chance par ici, justement, il y a Romaine Colère qui propose vraiment des ateliers super, et puis qui fait qu'il y a de plus en plus aussi de femmes qui attachent.
Oui, parce que c'est ça, il y a peu de femmes qui attachent, Romaine Colère.
Il y a peu de femmes qui attachent. Je pense qu'on évolue quand même dans une société qui a des stéréotypes genrés, et dans le shibari on n'est pas dans un vacuum, donc évidemment on est impacté par ces stéréotypes, par ces messages, par ces croyances. Et ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a plus d'hommes qui attachent que de femmes. Ça commence à changer, ça commence à évoluer, où on a de plus en plus de modèles, en fait, de femmes qui attachent. Et ça me réjouit complètement, en fait, parce que ça demande du courage, ça demande de pouvoir s'imposer dans un espace.
C'est presque militant, quoi.
Il y a vraiment un acte militant à attacher en tant que femme, ouais.
Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont attachés ? Ou c'est plutôt de l'ordre du féminin, les attachés ?
Non, moi je pense qu'il y a autant d'hommes, voire un peu plus d'hommes qui aiment se faire attacher que de femmes qui aiment se faire attacher, ouais.
Romaine Colère, elle n'est pas si sûre que ça. Elle...
Je pense que de plus en plus, il y a effectivement un désir de part et d'autre de se faire attacher également de la part des hommes. Je pense qu'à nouveau, je parlais du courage tout à l'heure pour les femmes, ça demande aussi du courage finalement pour les hommes de poser ce désir-là et d'aller finalement peut-être à l'encontre en fait, des stéréotypes, des injonctions genrées qui se posent sur les hommes également en fait.
Oui, il y a aussi peut-être une question de charge mentale, de responsabilité, parce qu'on dit finalement, attacher, ça s'apprend, ça se pratique, c'est quand même du temps dédié à ça, et ça s'entraîne en le faisant aussi de plus en plus. Il y a peut-être une solution de facilité de rentrer dans les cordes par l'aspect d'être attaché, attaché. Et puis, si on reprend les questions de genre épidémique aussi, on sait que dans les relations hétérosexuelles, les femmes portent la charge érotique principalement de la relation, en plus de porter une charge mentale supérieure à leur partenaire dans le quotidien. Il y a peut-être un moment où, dans cet espace d'érotisme et autres, on a envie de,
envie de
lâcher prise, de dire non, franchement, en fait,
vas-y.
Je prends déjà mon job, la part du temps, ouais. Merci.
C'est toi qui fais les nœuds.
Donc ça peut aussi être ça, c'est qu'à un moment, quand, c'est aussi un espace où on a envie de lâcher la sexualité ou de vivre ce qu'on ne vit pas à d'autres moments. Donc quand en fait on tient tout toute la journée, puis qu'on a déjà tiré sur plein de ficelles pour que tout le monde soit bien, la journée on n'a peut-être pas envie de le refaire, ou moins l'énergie de le refaire, ou pas avec notre partenaire qui ne prend pas sa part de charge mentale ou quotidienne.
Alors la charge érotique, Alex Dirty Funpy, vous la prenez, c'est d'ailleurs, vous êtes formateur également. Ce qu'on se dit là autour de la table, ça résonne en vous ?
Oui, ça résonne pas mal en moi sur notamment le fait que les femmes aient besoin, enfin, ouais, de se laisser aller, de lâcher prise, de pas être dans le contrôle en fait, et elles ont beaucoup de mal, enfin moi je le vois avec mes élèves et aussi les personnes que j'attache en privé, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à recevoir et faire que ne recevoir en fait. Donc les femmes ont toujours l'impression qu'il faut donner, qu'il y a une espèce de balance, tu me fais ci, je te fais ça, etc. Et juste se laisser aller recevoir, c'est quelque chose qu'elles ont du mal à intégrer, ou en tous les cas à accepter, quoi. C'est compliqué pour elles.
Comment savoir quel rôle on préfère, Romaine Colère ?
Je pense qu'il n'y a qu'une façon, finalement, de vraiment savoir, et c'est d'essayer, en fait. Mmh. C'est vraiment d'essayer, d'oser, essayer aussi les deux rôles. Parce que souvent, justement, de par les injonctions, les stéréotypes genrés de la société, on peut être consciemment attiré que par un rôle. Et je pense que c'est important, finalement, de pouvoir s'ouvrir aux deux aspects.
Thierry ?
Non mais Romy avait levé le doigt avant moi.
Oui, je pense que c'est vraiment, on est 100% l'un ou l'autre dans ces positions. Il y a vraiment plutôt un continuum et puis on a peut-être des préférences. Puis ça dépend aussi des partenaires, parce qu'il y a des personnes avec qui on sera plus à l'aise d'être attaché que d'autres. Et puis d'autres, on préfère les attacher. Finalement, c'est pas tant le rapport à la pratique en tant que telle que aussi à la personne qu'on a en face qui va faire qu'on apprécie la pratique différemment ou dans d'autres positions.
Je me demandais juste si le shibari, c'est une activité silencieuse ou au contraire, c'est un dialogue permanent. Est-ce que t'as mal, ça va, je peux tirer plus,
vous en parlez,
moins,
Alex Dirty Funpy, dans votre livre que vous co-signez avec Stéphanie Do, l'art du bondage.
Pour moi, le shibari, c'est vraiment quelque chose de non-verbal. On va pas parler pendant une séance, on va pas demander toutes les 5 minutes est-ce que ça va, comment tu te sens, etc. On va essayer de lire son partenaire, on va essayer de ressentir le moindre micro-mouvement, le rythme de la respiration, comment se positionnent les mains, etc. Pour lire en fait un petit peu l'autre. Et surtout pour éviter qu'il sorte de son état... certains diront méditatif ou de transe ou de lâcher prise en tous les cas, pour vraiment être vraiment que dans la sensation, que dans le ressenti, que dans l'échange d'énergie en fait. Après ça n'empêche pas de communiquer s'il y a vraiment quelque chose qui se passe mal, bien sûr, mais en tous les cas le fait de ne pas parler, ça va vraiment obliger chacun à se recentrer un petit peu sur d'autres sensations, le toucher, l'ouïe, etc. quoi.
C'est l'heure du sexto de Question Q et c'est Marie Fourquet qui le signe, elle qui est toujours à l'écoute de sa chatte, même si on le sait à force, elles ne sont jamais d'accord.
Sexto.
Ma chatte me parle, mon vagin me cause, elle a toujours un mot à dire sur tout, elle est du genre rebelle, poilue et insoumise, et on est rarement d'accord toutes les deux car elle a son fichu caractère, une vraie tête de nœud. D'après elle, on ronronne, on commence gentiment à s'encrouter dans le sexe vanille. Moi, quand elle dit ça, je pense dessert, crème vanille avec une croûte de cassonade brûlée, ma chatte s'énerve. Mais non, tu vois, tu penses qu'à bouffer. Je dis bah ouais, écoute, c'est vrai qu'avec ma baisse d'œstrogène, j'ovule comme un coucher de soleil sur ma cinquantaine. L'évocation du mot vanille me fait plus saliver que l'évocation d'un plan à trois. Ma chatte veut du sexe épicé, elle veut trembler, faire trembler les barreaux de la cage. Je fronce les sourcils, elle reprend exaltée. Je veux me faire encorder. Attacher, suspendre. Je veux que tu nous trouves un gars des nœuds, un dieu des cordes, un scout, un marin, un guide de montagne, un pêcheur, un pompier, un machinot. Non, mieux ! Dit-elle. Je veux un shibariste. Un maître japonais, un bras musclé, une main ferme qui tend une corde, la glisse sous une autre, la retient avec ses dents, puis resserre sec avec ses biceps. Je veux qu'on me mêle, qu'on m'emmêle, qu'on me démêle. Ah, rien que d'y penser, je suis déjà épuisée. Elle continue. Je veux sentir la corde de chanvre glisser lentement sur ma peau entre mes lèvres, tout en douceur, puis d'un coup se tendre, mordante, légèrement douloureuse, et enfin me sentir en apesanteur. Gorgée de désir, totalement suspendue à mon plaisir. Moi, comme un lustre. Elle, quoi, comment ça, comme un lustre? Moi, bah, suspendue au plafond, comme un lustre, avec des ampoules pour éclairer un rôti qui donne de la lumière, tu vois. Ma chatte me trouve plouc, 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 elle répète. Je suis une petite bourgeoise coincée de l'arrière-train sans aucune ambition sexuelle. À cause de moi, on s'ennuie. Oh, je fais, écoute, je connais bien le gars du rayon bricolage, les mansantres. Celui qui nous a aidés pour l'arbre à chat, celui qui a un petit air de MacGyver, là. Je suis certaine qu'il s'y connaît niveau cordage. À mon avis, il dirait pas non à une petite partie de jambes en l'air, plus, macramé. Ma chatte sait que je me moque d'elle et elle déteste ça. Elle me regarde de toute sa puissance de vagin mystique. Grave, reliée à son féminin sacré. C'est un art, me dit-elle de sa voix vaginale. Une philosophie de vie. Une occasion unique de se connecter avec son partenaire de manière spirituelle. Cela demande beaucoup de concentration, dit-elle, d'amour et de bienveillance. C'est un savoir où les flux sanguins, la contrainte et l'abandon se jouent du désir et de la jouissance pour amener la lenteur à la précision, à l'orgasme. Ultime. Ultime, dit-elle. Mais, ajoute-t-elle défiante, si tu veux limiter ta sexualité à la pénétration et au frottement de tes parties génitales, libre à toi de mourir dans l'ignorance sans maître dans ta vie. Oh, j'en reste bouche bée. Ma chatte me fait passer pour une inculte du cul. J'en ai un nœud à l'estomac. Ah, j'avais pas vu la chose du tout comme ça. Hein. Un maître qui s'occupe de moi. Elle a peut-être raison. Hein. J'ai besoin d'un maître, moi, dans ma vie. Quelqu'un qui contrôle tout pendant que je lâche prise. Oh, je crois que ma chatte a tout compris. Mais oui, c'est exactement le secret pour se libérer de la charge mentale. C'est le shibari. On veut un technicien du désir, pas un apprenti qui tourne sa nouille dans tous les sens dans l'espoir que la maille prenne. Non, un maître japonais qui lentement glisse les tensions de ma vie entre mes cuisses, qui fermement noue les nœuds de mes problèmes entre mes seins, tenant le fil de mes soucis entre mes mains, il attache les liens de mes peines autour de mon ventre, de mes chevilles, de mes poignets, pour me faire de ma charge mentale une œuvre d'art. C'est une cérémonie qui transforme mon quotidien en un chef-d'œuvre. Un maître qui me délivre de la banalité de mon monde ordinaire. Tu sais quoi, ma petite chatte? Merci. Merci, merci. Moi, je le revois, le lever de soleil sur ma libido irradiant sur ma cinquantaine bien ficelée, suspendue à l'aurore de ma nouvelle vie.
Oh, le lapsus, j'adore.
Ma chatte est ravie. Je viens d'ajouter quelques cordes à son arc.
Oh, merci, Marie Fourquet. Bon, alors, après plusieurs années de questions cul, je pensais pas que c'est le shibari qui vous mettrait d'accord avec votre chatte.
Mais, hein, enfin, on a trouvé un terrain d'entente. Elle m'a convaincue. C'est vrai que d'habitude, je gagne souvent. Mais non.
Ce fantasme-là que nous décrit Marie Fourquet, Romy Sigrist, l'idée qu'on se fait du shibari, est-ce qu'elle correspond à la réalité?
Bon, ça va dépendre de cette capacité aussi à être en soi, je pense, et effectivement à être avec l'autre.
Cette connexion que nous décrit,
oui,
la chatte.
C'est un moment de vulnérabilité quand même, pour l'un et l'une comme pour l'autre d'ailleurs, hein, des personnes, enfin pour l'une comme pour l'autre des personnes impliquées. Après, c'est intéressant aussi parce qu'on imagine que c'est forcément à deux. Et puis, il y a aussi maintenant des pratiques d'auto-shibari, finalement, où on peut commencer à s'encorder soi-même. Et puis aussi, bah oui, mais...
Non, mais il faut faire gaffe. Hein. Là, on est au service public et les gens qui nous écoutent, on a un devoir aussi, on a une responsabilité. Non, mais,
ça,
non, mais vous n'attachez pas tout seul sans être formé.
Mais
sans...
alors, ça n'empêche pas la question de la formation. Par contre, ouais. C'est comme la masturbation. Enfin, en fait, à un moment, la sexualité, c'est pas qu'avec quelqu'un d'autre.
Ah non, non, c'est mais c'est super. Bien sûr, mais c'est moins dangereux quand même de se masturber.
Bah,
que...
Je vous dirais qu'il y a les morts. Non, on ne sait jamais comment les gens se masturbent.
Non, mais je disais, alors, quand on est seul, qu'on s'encorde...
On présuppose aussi qu'on se masturbe tous pareil et toutes pareilles. Ben non, pas du tout.
Je vais citer le clown du cirque CNI. Les enfants, ne faites pas ça à la maison, faites-le à l'école.
Les mêmes références.
Vous écoutez Question Q et dans cette émission, on a décidé de s'attacher.
Attention, attachez vos ceintures, c'est parti!
Oui, je t'aime comme le saucisson.
N'auriez pas une corde d'environ 2 mètres avec un nœud coulant au bout?
Toutes mes excuses pour cet arrêt brutal, mais fort heureusement, vous étiez bien attaché.
Si on cherche quelques images sur vidéo, sur Internet, des images, enfin, ou sur Insta, ce que j'ai fait hier en préparant cette émission, ce qui m'a un peu marqué, c'est la normativité des corps que l'on croise. Des femmes attachées, plutôt jeunes, plutôt valides, plutôt blanches ou asiatiques, pour la plupart, plutôt minces, Romaine Colère.
Oui, je pense que la représentation du shibari qui est faite dans l'espace public et notamment sur Instagram correspond tout à fait à ça, en fait. Ça correspond aux normes imposées par la société. Et c'est un petit peu moins ce que je remarque dans les festivals où il y a plus de diversité. Mais c'est vrai que la représentation des corps manque de diversité.
Alex Dirty Von P.
Ouais, effectivement, ce qu'on voit un petit peu sur Insta et sur Internet, ça manque un petit peu de diversité, mais en fait, il faut se rendre compte aussi que c'est compliqué d'accepter de voir son image postée sur les réseaux qu'on est attaché, quoi. Donc la plupart du temps, les personnes qu'on voit sur les réseaux, ce sont des modèles qui posent pour des photos et qui posent aussi pour du shibari. Et du coup, ça limite un petit peu la représentativité, quoi. Mais d'une manière générale, on peut attacher n'importe quel type de physique et n'importe quel type de genre.
C'est pour pour tous les corps.
Tous les corps, ouais.
Vous m'amenez une question, en fait, dans vos propres séances, votre propre pratique, par exemple. Les personnes que vous attachez sont systématiquement ou pas photographiées pour garder une trace, un souvenir, quelque chose?
Comme chez le coiffeur.
Alors, en ce qui me concerne, oui, systématiquement. Enfin, dans 99% des cas, ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand on est attaché, on se voit pas, on voit pas la position dans laquelle on est. Et c'est quand même super... Enfin, le but du shibari, c'est de mettre en valeur la personne qu'on attache. Et ça serait dommage de passer à côté d'une belle représentation de soi au travers de l'œil d'un photographe, par exemple, quoi.
On revient à l'aspect extrêmement esthétisant du shibari. Elle se loge là, la charge érotique, Romy Sigrist, du shibari.
Mais ça dépend des personnes. Après, je pense qu'il y en a aussi, c'est plutôt le ressenti, qu'est-ce qui est vécu dans ce moment-là, dans la connexion à l'autre, dans la connexion à soi. Hein, ça demande une présence, mais tant quand on attache que quand on est attaché. Et puis là, il y a quelque chose qui peut être très érotique aussi dans cet espace-temps qui s'ouvre. Hein.
À propos d'espace-temps, pardon de vous interrompre, on n'a jamais répondu à la question de Thierry Sartoretti quand vous nous demandiez. Alors le temps, on l'a dit, ça peut durer. Mais c'était
Alex avait répondu. Oui, c'est 45 minutes et 2 heures.
Mais comment est-ce qu'on attache et comment est-ce qu'on détache? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de systématique, un protocole, une sorte de rituel?
Non, il n'y a pas forcément une sorte de rituel. Enfin, l'idée, en tous les cas, lorsqu'on attache, c'est de créer une contrainte très progressive. Donc, on va pas se dépêcher, on va prendre son temps, on va poser corde après corde, et chaque corde va raconter une histoire, en fait. On va mettre une certaine tension dans ses cordes, on va manipuler le corps d'une certaine manière. Et petit à petit, on va créer cette contrainte et cette montée d'endorphines qui va nous permettre, derrière, de faire des choses un petit peu plus poussées, comme des suspensions. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre son temps pour attacher, et surtout prendre son temps pour détacher aussi, vu que c'est une des parties les plus agréables de la session.
Oui, je pense que ça peut être vraiment... Ça dépend de ce que la personne recherche. Si elle veut d'un coup, en fait, ressentir cette libération, s'éveiller progressivement pour plus sentir comment chaque lieu de tension se libère. C'est tout, effectivement, aussi un moment précieux de la session, et que c'est pas du tout que l'esthétique, je pense vraiment une esthétique interne pour le coup, en fait, de disposition et de ressenti et de sensation qui est intéressante et érotique.
Moi, ce que je remarque aussi quand je détache, en fait, c'est qu'il y a un petit peu... Alors déjà, c'est pas linéaire, hein, c'est pas on attache et après on détache. Et en même temps... Quand j'arrive au moment où il y a de moins en moins de cordes sur le corps, il y a comme une certaine fragilité, une certaine effectivement lenteur à avoir, parce que ça peut par exemple créer un sentiment d'être laissé, un sentiment d'abandon si les cordes sont enlevées trop vite. Et de pouvoir amener cette transition de manière douce, je pense que c'est vraiment essentiel.
Moi, j'ai une question très concrète sur la question du shibari et la question du corps, parce qu'on parle de lâcher prise aussi en tant que personne attachée. La question du corps aussi, j'imagine, selon où on attache, selon quel type de... comment ça peut faire ressortir votre corps et tout ça. Enfin, on parle de quelque chose d'extrêmement esthétisant, ça ne l'est pas toujours, pardon. Nos corps sont imparfaits, super. On a des complexes, souvent. Je m'imagine avec ma cellulite hyper encordée et tout ça, je ne suis pas sûre qu'après, quand on me fasse une photo, je me sente super belle et super bien. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois tout à fait ce que vous voulez dire en ce qui me concerne. Mais le fait de se faire prendre en photo, ce dont vous parlez, c'est votre représentation par rapport à ce que vous voyez vous. Alors que là, vous êtes sous le regard de quelqu'un qui vous trouve belle, qui va faire en sorte que vous soyez belle, qui va créer des formes de corps particulières. Donc on va pas penser au bourrelet, on va pas penser à sa cellulite. On va juste voir une image complète, une forme, un lâcher prise, un relâchement. Et surtout, le regard de quelqu'un qui vous désire, qui vous trouve belle. Et ça va changer complètement la vision que vous pouvez avoir de vous. En tous les cas, moi, c'est le retour que me font les personnes que je prends en photo. C'est toujours la même chose. Non, mais je suis moche en photo. Non, mais ça va pas. Ça sert à rien de prendre des photos, etc. Et en fait, quand elles se découvrent sous mon œil et sous mes cordes, elles se disent « Ah, ok, ça, je ressemble, en fait. » Et ça change vraiment l'image qu'on peut se faire de son propre corps, quoi.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Romy Sigrist, ces questions d'être vu sous les cordes de quelqu'un ? J'aime bien cette expression, ça va, elle me marque. C'est vrai qu'on parle du regard, et là c'est sur les cordes.
Au sein des cordes aussi, hein, parce qu'il y a un peu effectivement être entouré, la contenance. Je pense qu'on guérit aussi petit à petit de nos blessures, nos complexes, par tout l'amour qu'on peut recevoir et ces regards en fait.
C'est pas la première fois que vous nous parlez de l'effet réparateur du shibari.
Peut-être pas.
Non, juste avant, vous avez déjà dit, ça peut, en termes de résilience et tout ça.
Oui, vous... parce que c'est une confiance, en fait. C'est aussi offrir une confiance. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a ce qu'on voit visuellement du corps, puis il y a tout ce que ça demande derrière, comme disposition, comme présence, comme ouverture, comme cadeau qu'on fait de confiance. De l'autre côté, bien sûr, c'est aussi une responsabilité, mais comme d'autres pratiques qui peuvent être assez extrêmes. Puis on imagine, oh mon Dieu, ça doit être tellement extrême. Puis en fait, quand on le vit, ça peut être d'une douceur et d'une beauté quand on porte ce regard sur comment, par exemple, si je pense au fisting, on arrive à cette pratique. Ça demande en fait une attention, une connexion, une confiance énorme. Puis on peut mettre beaucoup de beauté et de douceur dans des actes qui paraissent, suivant le regard qu'on y porte, très, très hard. Et je pense que pour les cordes, c'est pareil.
Je pense qu'en général, tous les jeux de domination et de soumission, s'ils sont faits dans des cadres avec des règles de consentement, peuvent vraiment réparer tous les abus qui ont pu être faits dans l'intimité sans justement avoir ce cadre-là. Donc tout d'un coup, ça peut être vraiment une espèce d'endroit de catharsis forte par rapport au BDSM en général. Donc pourquoi pas le shibari ?
Bien sûr. Ouais.
Effectivement, il y a vraiment cette notion d'amour, de consentement, de connexion. Et ce regard de l'autre qui peut changer la perception qu'on a de soi. Alors, je ne parle pas forcément de trauma, mais là, je parle plutôt de l'acceptation de son corps, pour revenir au sujet d'avant. Et il y a quelque chose d'un petit peu libérateur dans le monde du shibari et du BDSM aussi en général. Parce qu'on approche, la communauté approche un petit peu la sexualité, la nudité et le corps de manière plus détabouisée, de manière plus décomplexée que le reste de la société au final. Et je sais que moi, par exemple, ça m'a aidée en fait, ça m'a vraiment aidée à voir mon corps différemment, à accepter la cellulite aussi qui était là. Parce qu'il y a aussi, on voit d'autres personnes qui sont attachées, qui ont d'autres corps, on voit leur cellulite, et ça permet, je pense, de manière inconsciente de s'entraider, en fait, sur ce chemin. Mmh. Et aussi, moi, il y a un petit peu aussi cette envie, l'envie de me faire attacher, a petit à petit été, et de ressentir les cordes sur ma peau, a été petit à petit plus forte que cette peur du regard de l'autre, que cette peur du jugement et cette peur de mon propre regard, en fait, aussi.
Et c'est vrai quelque chose d'extrêmement touchant quand on voit des séances de cordes avec des corps qui sont peut-être gros, qui sont avec de la cellulite, qui sont avec des handicaps ou autre. Mais en fait, quand on voit aussi ce qui se passe, quand on ressent de la connexion, quand on voit toute cette... Cette bienveillance, cette conscience, cet amour qui se partage, on passe par-dessus tout ça, puis on se rend compte de nos propres biais sur les regards, qu'on pose sur les regards, et puis effectivement, le désir de l'expérience devient plus fort que la crainte esthétique, extérieure, est liée à une forme de male gaze, souvent, d'ailleurs.
T'en es où, question Q.
Ceci est un haïku. Question Q et Shibari, place à la chronique de Thierry Sartoretti.
Culture.
Là, je suis espanté.
Alors, théâtre Shibari, Thierry Sartoretti, c'est le défi que je vous ai lancé, c'est à vous.
Kanbanwa, Christine. Kanbanwa, Marie. Kanbanwa, la chatte de Marie. Kanbanwa, vous autres, avec ou sans chatte. Avant de rédiger cette chronique que j'espère correctement ficelée, j'ai suivi le cours accéléré Le japonais pratique en 10 minutes, revu mon intégrale Tashun Nobuyoshi Araki, 120 balles quand même le truc, et aussi bien sûr parcouru le grand livre des nœuds. Je vois que dans le livre de notre invité, il y a aussi beaucoup de nœuds.
Oui.
Je suis donc prêt. Amis du coton, du sisal, du chanvre, du de la jute, bienvenue. Fans de latex, communauté cuir bien tannée, congrégation fantasmatique du plastique, restez à l'écoute. Le shibari, c'est comme le plat du jour. Sur l'assiette, il y a et viande, et légumes, et féculents. Mistress Betty, qui était à la page dans les années 50, emballait son affaire en mélangeant joyeusement les matières. Sous l'objectif de ce photographe, de ce coquin d'Irvin Clough. Rappelez-vous ces photos en noir et blanc. Je suis prêt, vous dis-je. Et pourtant, je bloque. Ce n'est pas une question pratique, ce n'est pas une allergie, ce n'est pas de la pudibonderie, c'est ce mot. J'ai pas le droit. Il est tabou. Un mot avec un C. Ce n'est ni con, ni conne, ni cuni, caca, ni cuni, ni dominique, ni conique. C'est je ne peux pas. Ou alors ça va porter la poisse à tout le monde. Risque de rupture, étouffement, nécrose, limbago, claustrophobie, brûlure, allez savoir. Faut pas jouer avec le mauvais sort. Hein. La ficelle est peut-être un peu grosse, mais au théâtre, ce mot, il est tabou. C'est aux arts de la scène ce que Voldemort est à Poudlard. À la place, il faut dire driss, fil, guinde, voire boue. Tu le sens, mon gros bout, entre tes cuisses, ça on peut le dire, mais pas...
Surtout au théâtre, ouais.
Le rapport entre le shibari et le théâtre, eh bien le shibari c'est une pure mise en scène, un spectacle, une scénographie, un art éphémère bien vivant, sauf bien sûr si on a un rôti de porc, là c'est autre chose. Et par ailleurs, au théâtre, comme dit la chanson, tous les comédiens, toutes les comédiennes vont chanter, danser sur le taureau, sont américains, sont américaines, la faute à Napoléon. La raison de cette interdiction absolue ? Eh bien, naguère, les machinistes de théâtre étaient recrutés chez les retraités et autres éclopés de la marine à voile. Or, sur un bateau, la seule servait à soutenir la cloche qui saluait les morts ou pendait les mutins. Et au théâtre, la seule servait à suspendre les seaux d'eau prévus en cas d'incendie. C'est pour cette raison aussi qu'au théâtre, on parle en coulisses de passerelles, de ponts, de haubans, d'amarrages, de points d'ancrage, de fils, ne le perdez pas, mais surtout pas de cordes. Ah, et merde.
Merde, on a le droit de dire ça au théâtre. C'est fou le nombre de superstitions à part ça. Dans le monde du théâtre, pas droit de dire le mot corde. Enfin,
ouais. Vert.
Vert.
Alors le shibari avec des cordes vertes, parce que le vert c'est aussi interdit.
Lapin.
Au
avec un lapin.
Qu'est-ce que vous pensez de la théâtralité du shibari, Alex Dertifonpi?
Ben, je pense que ça fait partie un peu, ça fait partie intégrante un petit peu de la pratique. On va jouer un rôle, on va créer une scène, en fait. C'est, voilà, dans le BDSM, dans le Shibari, c'est toujours la même chose, c'est créer une scène. Donc on va jouer quelque chose pour faire passer des émotions, des intentions à la personne avec qui on joue. Et donc on va essayer de se créer un rôle pour endosser un petit peu les émotions et ce qu'on a envie de faire passer à son partenaire.
Romaine Colère.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a cette idée de se mettre dans un rôle et en même temps, ce terme de rôle parfois me chiffonne parce que ce qu'on entend par là, parfois c'est quelque chose de faux en fait. Et j'aime bien cette idée de facette, de mettre en avant une facette de soi qu'on a envie d'explorer dans un cadre défini avec des discussions préalables, des discussions après la scène qui permettent d'explorer un peu des dynamiques qui ne sont pas celles de la vie de tous les jours, de la relation qu'on a avec la personne avec qui on pratique.
C'est comme le théâtre, ça ne s'improvise pas, le shibari. Romaine.
Vaut mieux éviter, oui.
Ouais, faut mieux éviter, vous êtes d'accord?
Effectivement, vaut mieux éviter.
Ouais. Ouais, il y a des accidents.
Il y a forcément. Oui,
il y a des risques,
il y a des accidents, et je pense que c'est bien de ne pas le minimiser, parce que dès qu'on le minimise, on passe à côté des éléments de sécurité qui sont essentiels, et c'est bien de se former, c'est bien de continuer à apprendre. Moi, j'ai un biais personnel, mais je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre dans la vie et du coup dans le shibari aussi. Donc oui, ça ne s'improvise clairement pas.
Vous parlez des risques, hein, dans votre livre, Alex Dirty Von P, un mauvais placement, ça peut être très douloureux, ça peut être très dangereux.
Ça peut être très dangereux, ouais. Il y a déjà la compression sanguine, donc il faut éviter les nœuds coulants pour pincer les artères qui pourraient créer des garrots, et ça c'est vraiment, vraiment très dangereux. Et il y a surtout les passages de nerfs, et notamment le nerf radial au niveau du bras, qui permet de faire le lever la main en fait, et pincer le pouce et l'index. De gérer toute l'appréhension de la main, si on pince ce nerf avec une corde, si elle est mal placée à certains endroits où le nerf est en surface de peau, on va endommager le nerf, on va se retrouver avec des difficultés à bouger la main, ça peut durer quelques heures à un bon mois quand c'est un gros accident, donc si vous voulez pas handicaper votre partenaire qui puisse plus bouger là ou ses deux mains d'ailleurs, ça peut arriver aussi, faut vraiment faire attention, quoi.
Vous avez appris comment
à pratiquer? Moi j'ai pris des cours.
Avec un maître japonais.
Avec un maître européen, enfin qui n'était pas maître à l'époque, mais qui est devenu l'élève officiel d'un maître japonais par la suite. Donc pendant 3 ans, j'ai pris des cours tous les mois, je me suis déplacé à l'étranger, j'ai fait des workshops. Donc ouais, j'ai suivi une grosse formation. Ouais.
Comme vous, Romaine Colère.
Pareil, alors j'ai pas ce même lien avec cette école-là, avec ce style-là, mais la même chose, en fait, j'ai pris des cours, j'ai suivi des ateliers. Je vais aussi souvent en jam, en festival, où il y a aussi ces discussions avec les pairs, en fait, que je trouve essentielles pour continuer à évoluer dans sa pratique.
Oui, c'est peut-être important pour les gens qui nous écoutent, plutôt de leur conseiller de se former. Il y a plein d'ateliers, ci ou là, en Suisse romande ou ailleurs. Vous avez d'ailleurs une école des cordes, oui. Alex Dirty Von P.
Moi, je donne des cours. En fait, l'idéal, c'est au moins de prendre des cours de base, parce qu'il y a une chose essentielle en shibari qui est la plus importante, je pense, et la plus compliquée à appréhender, c'est la tension des cordes. Et vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez, tous les tutos, les livres, etc. Vous ne saurez jamais comment il faut serrer, à quel niveau de serrage on peut aller en fonction des parties du corps. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour gérer ces tensions, garder ces tensions, ce qui peut créer aussi des problèmes si les tensions sont mal réparties ou si les cordes sont pas assez serrées, faut prendre au moins quelques cours, et après, si vous voulez vraiment approfondir un petit peu, aller dans les choses un peu plus techniques, continuer la formation, mais au moins prendre ces cours de base, ces cours d'initiation qui vous permettront d'apprendre les tensions dans les cordes.
Alex, votre plaisir à vous, c'est quoi quand vous vous encordez?
Vous avez 20 secondes.
En fait, c'est de créer un lien avec la personne que j'attache et de la faire voyager, en fait. De lui procurer des sensations, des émotions, la faire lâcher prise, l'emmener vraiment là où elle s'entend. Enfin, voilà, voyager avec elle, être dans l'empathie, ressentir ce qu'elle ressent et la rendre belle et en faire des jolies images.
Et vous, Romaine?
C'est très similaire pour moi. Cette notion de voyage, ça me parle beaucoup, de créer un espace pour que la personne puisse vivre des choses, des sensations, des émotions.
C'est la fin de cette émission. Merci Alex Dirty Von P. Je rappelle la sortie de votre livre L'art du bondage. Vous l'avez écrit avec Stéphanie Doss et publié chez La Musardine. Merci Romaine Koller. On peut vous retrouver sur votre site internet romainekoller.ch. Merci aux habitués de Questions Q, Romy Sigrist, Marie Fourquet, Thierry Sartoretti. Toujours un bonheur de vous voir. À bientôt.
À bientôt.
Merci à Muriel Viost, attachée de production, Marc Frochot à la réalisation, Bénédicte Banet à Paris et Nicolas Favre à la documentation. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, envoyer des cœurs, vous abonner, diffuser ce podcast. Vous pouvez aussi le nouer près de vous avec des cordes. Personne ici ne vous jugera. Je vous embrasse et à bientôt.